Sur le fil.
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 Une émission de bidouilles sonores,
de bruits chelous,
de fonds thématiques
et de formes ludiques.
D'écriture plurielle.
D'écriture plurielle. Une émission qui fait
une émission
des nœuds.
Qui fait des nœuds.
Qui s'en mêle.
Qui s'en mêle.
Qui démêle.
Qui démêle.
Qui s'en mêle.
Au gré du Mistral.
Une émission de haute voltage, fréquence. Une émission de création sonore.
Une heure de tout et de rien.
Tous les deuxièmes dimanches du mois.
De 20h à 21h.
Par des transpédéguines.
Ou des post-queers un peu timbrés. Sur Radio Galère, 88.4 FM.
Et en DAB+.
Sur le fil.
Sur le fil.
Sur le fil.
Sur le fil.
La recherche n'avait rien donné. Il avait perdu sa trace. Les pas dans la forêt menaient vers la mer, puis plus rien. Il ne lui restait que les enregistrements faits de ses mots, souvenirs, le ressac, des bribes de voix douces, en rupture, avec le grain de photos écorné sur la langue.
Sur les chemins de fer ou à la poursuite des pas du loup, c'est la vitalité des traces que l'on porte en cadeau. Des chemins de survie à la recherche de trésors, suivons nos lignes. Pneus à la recherche de stations de ski de fond, neige, enquête de détective. Tracer dans la buée, courir sans GPS, géométrie invisible.
Je les cherche dans ta voix, dans ta respiration que la fatigue altère. Je les cherche dans les histoires, celles que tu me racontais quand j'étais petit. Je les cherche dans le miroir que tu traverses, qui s'évapore, dans le bruit des sirènes. Les traces du temps qui passe, les rides qui se creusent en virage, en présage.
Des pas de loup, des pas chassés, des patates, de la boue, de la patasse, on fuit. Je traque les lignes de mes ancêtres dans la neige. Je suis l'odeur de sang sur les pneus. Je mène l'enquête dans le sillage de l'histoire. Sur les pas, sur la route, contre l'oubli, chanter la voix des esclaves.
Je ne suis pas un robot. 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 Je ne suis pas un robot.
Je ne suis pas un robot. J'ai ce petit autocollant dispersé un peu partout chez moi, il fait référence à ce que les algorithmes nous demandent de valider lorsque l'on veut rentrer sur certains sites internet. Prouver que nous ne sommes pas des robots. Autant j'ai pas envie d'avoir à prouver quoi que ce soit, si ce n'est à moi-même, autant j'ai besoin de partager ce qui me rassure de moi, à voix haute, dans l'espoir parfois d'y recevoir quelque écho collectif. Je ne suis pas un robot, car un robot n'a aucune trace, aucun passé, aucun ancêtre, aucune histoire à laquelle s'attacher. Il a des zéros, des uns. Moi, même si parfois on m'en fait douter, même si parfois j'en doute, j'ai des traces, un passé, des ancêtres, une histoire à laquelle appartenir. Pour dire à voix haute, je prends parfois le micro à la radio, entouré de quelques camarades, et je laisse des traces. Les miennes et les nôtres. Car la dévalorisation, l'invisibilisation, voire la disparition des traces passe encore par cette même dévalorisation, invisibilisation, voire disparition de l'oralité comme mémoire. Déposer mes traces, ok, celles qui m'intéressent. Aujourd'hui, ce sont celles des Noirs. Et je dédie cette petite chronique à mes amis Fatou et Soto qui, chacune à leur manière et sans forcément le savoir, m'ont permis et accordé, dès nos rencontres, un accès à la reconnaissance et à une appartenance dans des traces révolutionnaires noires. À Souleymane et Bintou, à Farikou et Namzata, qui me laissent l'honneur de les voir grandir et de les accompagner, à mon tonton Kaba, à la complexité de mon père et à Laura et Harry, avec qui on s'entoure souvent dans toute cette pataugeoire. Je vous en suis éternellement reconnaissante. Quand bien même je ne devrais pas avoir à le prouver, j'appartiens à cette histoire, à ces traces, à mon endroit certes privilégié dans le monde. Je pars de là parce que je réalise qu'un de mes plus grands creux, en tant qu'enfant noir métisse né en France d'un père colonisé centrafricain traumatisé et d'une mère blanche, c'est le manque de traces. Des plus profondes aux plus symboliques, ce sont les traces noires niées, invisibilisées, tues, détruites, éteintes, perdues, qui me manquent et m'intéressent. Elles m'intéressent pour moi, mais aussi pour ce que leur disparition dans nos imaginaires de lutte militante, décoloniale et antiraciste peut raconter de biais sur les peuples noirs dans le monde. J'y perçois parfois l'éternel figement des Noirs comme corps esclaves, exploités, incapables, morts dans le silence ou seule force de soins. J'ai pu croire enfant que les Noirs n'étaient que douleur et violence, silence et apathie. Il a fallu réaliser la puissance de l'invisibilisation pour comprendre que mon héritage n'était pas celui de cette perception de la suprématie blanche. Les traces peuvent permettre de s'assumer, s'affirmer, se recentrer dans un tout. Elles nous invitent à remercier les ancêtres, à les honorer, à perpétuer le chemin pour que le fil ne disparaisse plus. Je ne sais plus où j'ai lu ou entendu ça il n'y a pas longtemps, mais ça me parle beaucoup. La représentation sans le respect, c'est de l'exploitation. Jusqu'à encore hier, j'avais prévu tout autre chose pour cette chronique. J'étais partie sur plein de recherches, un travail de petites archives, de creuser, de nommer, de sentir cette nécessité de citer beaucoup, 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 beaucoup de noms. Parce que c'est cette invisibilisation très forte que j'avais envie de porter encore ici. Mais je garde ça pour plus tard. Et surtout, parce qu'après avoir eu la chance de pouvoir de nouveau enregistrer une camarade et amie, j'ai préféré faire noyau autour de son témoignage. Et encore un grand merci pour ce partage. Pour garder les traces, il y a besoin de ponts. Les ponts, parfois, ce sont les enfants dispersés, issus de la colonisation, enfants du continent africain, enfants d'immigrés en Occident, enfants des Caraïbes. C'est eux qui peuvent encore écouter et dire, qui ont de l'accès, du silence à entendre et des bruits, des résonances à attraper au vol. Puis à les réunir, les faire parler, petit bout par petit bout. Et quand on se raconte entre nous, nos familles, nos creux, nos questions, que l'on parle de nos vivants et vivantes, de nos morts et mortes aussi, de nous, que l'on s'offre nos héritages complexes, c'est finalement à nous de tracer.
Pour moi, un ancrage hyper fort, c'est celui de me fabriquer en même temps que ma mère découvre l'Occident. Et qu'il y a vraiment, voilà, je trouve ça, c'est vraiment constitutif de moi, comment, voilà, on apprend ensemble, au final, un monde auquel moi, je suis d'une part assignée, mais de l'autre aussi héritière, et comment elle, elle se fabrique. Quand je suis née, ma mère avait la vingtaine, elle était jeune. Elle se fabrique dans un monde qui est censé lui être interdit quelque part. Ben, moi, je me définis comme une personne afrodescendante qui a grandi en Europe occidentale, je dis souvent. Je pense que j'ai une espèce de pudeur par rapport à là où j'ai grandi, qui est plutôt la Suisse italienne, l'Italie du Nord. Mais bref, en tout cas, pour moi, l'Europe est hyper importante toujours à situer. Me situer dans le territoire dans lequel je suis née, en vrai, dans lequel je me suis fabriquée. Et quand même avec cet ancrage sur le continent par la filiation avec ma mère. Et du coup, tout ce que ça ouvre, cette filiation-là aussi, quoi. Ah, ma mère est guinéenne. Du coup, quelque part, je suis guinéenne aussi. Oui, je suis née au moment où ma mère est arrivée ici. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est constitutif de mon identité. Et en lien avec cette histoire de trace, c'est-à-dire que ma sœur a une histoire différente parce qu'elle est née en Guinée. Elle est arrivée vers 5 ans en Europe avec mes parents qui habitaient en Guinée ensemble. Mon père était un blanc d'origine italienne. Bref, mais c'est comme si je me suis fabriquée dans un territoire qui était celui où mon père avait grandi. Mais en même temps, ma mère venait d'ailleurs. Mon père était parti aussi. Et que cette question de comment il m'inscrivait d'une part dans une trace qui était celle de leur vie commune en Guinée et comment ma mère quelque part nous ramenait quelque chose à essayer de nous inscrire dans sa propre histoire. Mais c'est vrai aussi que quand j'y repense maintenant en tant qu'adulte ou quand j'ai en tout cas au cours de plus ma politisation en tant qu'adulte, je me suis rendu compte en fait que j'avais baigné quand même d'une certaine radicalité politique qui était celle de l'histoire de mes parents et qui n'était pas du tout très... Comment dire? Par exemple, deux différences. Mon père, il l'a parlé un peu, comme voilà d'où on vient, voilà cette histoire de lutte dans laquelle on s'inscrit. Je pense que c'était la personne qui le plus disait le mot décolonisation, etc. Et ma mère juste racontait sa vie. Et après, je me rends compte aujourd'hui qu'on a fait des expériences, on a vécu des choses qui nous inscrivaient hyper fort quand même, notamment dans l'histoire panafricaine du côté de ma mère. Et l'histoire de l'autonomie italienne du côté de mon père, ou même du communisme anarchiste italien avant que les deux se séparent et tout.
Sur le fil. Radio Galère 884.
Trace noire.
Pour moi, le panafricanisme a un ancrage sur le continent hyper fort, même si pour moi, il rayonne après par ailleurs, et notamment dans le lien avec toutes les personnes de la départation et de la diaspora. Du coup, pour moi, quand même, le panafricanisme est en lien avec les luttes noires. Il y a quand même quelque chose d'un ancrage dans la question du racisme et des luttes d'émancipation et de libération noire. Ce qui me plaît dans le panafricanisme, en tout cas, et ce qui m'a intéressé beaucoup aussi de regarder, tu vois, dans ma construction politique, quand je suis venue habiter en France et tout, et même, tu vois, je peux avoir eu du côté de mon père des discours antinationalistes hyper forts. Et ce que ça m'intéressait dans le panafricanisme, c'est cette idée aussi de comment il y avait une idée de réappropriation des États-nations, quelque part, mais qu'il y avait aussi une dimension transnationale qui était hyper importante. Et cette idée vraiment de aujourd'hui les gens dirigeant la société civile dans certains contextes quoi, mais vraiment juste les gens quoi, les gens au-delà des frontières et les gens réunis autour d'une condition d'oppression. Je pense que ça autour d'une condition d'oppression et d'une nécessité vraiment de riposte et d'autodéfense hyper forte.
Dispersé dans le monde par l'esclavagisme, la colonisation. Tu n'es pas esclave, envoyé vos ancêtres aux quatre coins du monde. Tu n'es pas esclave, vous êtes dispersé. Tu n'es pas esclave de ta condition. J'ai besoin de vous réunir dans les traces que je crée dans ma tête, dans celles que je tricote. Il nous réserve seulement un héritage commun. Je suis une trace. Je suis une trace à mon endroit du monde. Je suis une trace à mon endroit d'un monde. Droit de laisser une trace. Qui trace, qui doit laisser sa trace. Trace effacée, quelle trace tu as. Quelle trace ouvre son chemin pour reconstruire une route. Trace effacée, quelle trace tu as. Quelle trace ouvre. Trace brillante, trace éteinte, trace. traces de mes héritages, quelles sont mes héritages, où les chercher. Où sont les traces de mes héritages, quelles sont ces âges, où les chercher, quand la construction du monde ne cesse de nous empêcher, de nous disperser, nous empêcher. Un effacement des traces de lutte noire dans nos imaginaires collectifs militants. Nous ne nous délimitons pas au hasard des frontières coloniales et de nos dispersions. Que les récits et imaginaires collectifs par l'esclavage façonnent dans la composition de nos prisons. Un monde aux traces noires. Bien que nous n'avons pas les yeux, bien un monde privilège, nous attendons l'héritage et nous avons pas les traces en commun. Et pour nous creuser des trous dans nos présents, ces traces noires. Des traditions qui évoluent des airs, la férocité. Les océans qui nous séparent. Diasporique issue du continent sont évidemment un obstacle à nos émancipations. Prouve que tu n'es pas esclave de ta condition. Prouve-le. Les traces permettent à minima de tirer des conséquences des échecs, des égos, des expériences, des tentatives, des espoirs. Qui a le droit à une histoire? Prouve-le. Moi d'abord.
Après, moi j'ai fait autre chose, t'as vu, j'ai eu une autre vie, j'étais pas du tout. Quand je suis venue en France, et qu'à un moment j'ai vu que, à plein d'endroits, je retrouvais des traces, mais comme formalisées différemment, que ce soit en termes de savoir ou d'histoire politique, et qui quelque part étaient un peu des ancrages que moi j'avais, mais qui étaient plus de l'ordre de l'histoire familiale. Et du coup, je trouvais ça hyper intéressant de regarder d'une part comment, en fait, quelque part, les traces, elles avaient été pas... Comment dire ? Quelque part, elles avaient marqué... Et en même temps, elles étaient devenues un peu comme peu identifiables ou un peu invisibles parce que on ne les racontait pas comme « Ah, ça, c'est le panafricanisme » ou je ne sais pas quoi. C'était juste des histoires de famille, des personnes qu'on a rencontrées. Ma mère, elle a grandi en Guinée. Du coup, il y avait Myriam Makeba qui était en exil là-bas avec plein d'autres panafricanistes. Et ma mère a une histoire un peu particulière qui a fait qu'elle a grandi avec ces personnes-là aussi, elle les a côtoyées, qui sont venues après nous voir en Europe, et qu'en réalité, petit à petit, je me suis rendu compte, oh waouh, ces personnes-là, c'est des gens qui, en tout cas, avaient une visibilité dans certaines luttes, ou je sais pas quoi, et pour nous, c'était des gens qui viennent passer du temps à la maison, qui s'assiedent, qui mangent. Et du coup, peut-être, un double truc de comment quelles traces sont reconnaissables, comment déjà, moi, j'ai pu les reconnaître pour moi-même. Comment le moment que c'était des traces, en tout cas, qu'elles s'inscrivaient dans une histoire qui était autre que l'histoire familiale, ça les a un peu comme amplifiées, tu vois. Et c'est pas amplifié dans le valeur de mon expérience, mais amplifié dans une forme de reconnaissance. Et en même temps, quand même, toujours, toujours hyper en lien. Moi, j'ai l'impression que ma vie tout entière, ou même mon existence maintenant, mais même toutes ces traces, j'ai l'impression que, tu vois, avant quand on commençait à parler, il y a un peu toujours cette question un peu imminente, comme de la menace de l'invisibilité, tu vois. Et que je voyais même à plein de moments, tu l'as dit un peu avant dans notre échange, cette histoire même de comment... Je lutte un peu à l'intérieur de moi-même pour les conserver. En tout cas, pouvoir suivre quelque chose de l'ordre de ces traces ou de ces sciences avec la certitude que ça a réellement existé. Déjà ça. Et puis cette question de comment... Des fois, ça me fait hyper chier ou ça me blesse de fou que tout à coup, ça devient visible et tangible parce que c'est reconnu ailleurs. Et tu vois, là, par exemple, il y a une maison d'édition que, par ailleurs, j'aime beaucoup... qui publie le travail d'une personne blanche qu'en vrai, j'admire vraiment son travail et qui fait un gros travail de fouiller dans les archives, justement, des luttes en Guinée. Elle fait ce travail autour des archives en passant par des archives familiales parce que tout à coup, elle se dit, quand même, même ce truc-là, cette invisibilité qu'il y a toujours eu autour de... la Guinée, c'est le premier pays d'Afrique de l'Ouest, en tout cas, au cours des colonisations récentes de 1900. Qui a arraché la décolonisation, qui n'est pas rentré dans le processus qui était imposé par la France, qui a décidé de, écouter le référendum populaire en 58, qui a chassé De Gaulle de son aéroport et tout ça. Du coup, déjà ça, Par exemple, moi, là où j'ai grandi, a fait que la Guinée était un pays invisible, invisibilisé. En tout cas, ça n'existait pas. C'était une histoire qu'on ne pouvait pas raconter parce que c'était une histoire de l'échec de la décolonisation imposée par la France. Et après, c'est aussi comment les gens n'avaient pas... En tout cas, je ne sais pas comment dire. Il y a quelque chose qui s'est perdu aussi par rapport à tout ce qui a été les épreuves des familles ou du pays. En tout cas, tout ce qui a été... Comment dire, le retour de bâton, la violence qui s'est abattue sur les luttes panafricaines, la violence qui continue à concerner les territoires colonisés, etc., etc. Et que du coup, cette meuf, elle fait ce gros travail d'archives et là, elle publie un livre qui s'appelle Un couple panafricain et qui raconte effectivement un peu l'effervescence panafricaine de la Guinée de cette période-là, qui est la période dans laquelle ma mère. Au début, elle a genre 10 ans, tu vois. Et après, rapidement, ma mère ado, elle fait un peu une vie où elle part de sa famille, elle rencontre ses réseaux. Et du coup, pour moi, c'est l'histoire de l'adolescence de ma mère. Et ça m'est arrivé, par exemple, qu'une copine me dise « Ah, mais tu sais, j'ai lu un livre super intéressant, je ne connaissais pas tout ça sur la Guinée et tout. » Et tu sais, ça me tire à des endroits différents. De même temps, me dire « Ah, je suis super contente que cette histoire, elle soit accessible. » Je me sens un peu coupable. À des moments, je me dis « Mais, ah ouais, la personne, elle me parle comme si elle ne savait pas que cette histoire me concerne. » Alors que je sais que je lui ai raconté plein de fois. Et du coup, ça me fait comme, ah, tout à coup, il y a une espèce de hiérarchie qui se fabrique entre qu'est-ce qu'elle a gardé en mémoire de l'expérience que moi, j'avais partagée, et puis qu'est-ce que ça fait quand elle lit tout ça dans un livre. Et si je le prends par un autre bout, c'est aussi, par exemple, moi, je me sens une espèce de responsabilité un peu cabossée, en tout cas, de comment honorer et faire vivre, tu vois, ce qui reste de cette mémoire à l'intérieur de corps, par exemple, comme ma mère ou plein d'autres personnes que je tutoie, qui ont vécu, en tout cas, qui sont les enfants et, en tout cas, les auteurs de cette effervescence aussi panafricaine, mais qui sont aussi des gens qui ont été super écrasés par tout ce qui s'est passé derrière. Et c'est une conversation que j'ai beaucoup avec la personne avec laquelle je fais le plus communauté, de qu'est-ce qui s'est passé, en fait, de ces traces. Qu'est-ce qui se passe? Nous, on a l'impression d'avoir un espèce de rapport au pouvoir, en tout cas, que les personnes ont pu conserver sur leur existence, par exemple, dans le cas de ma mère. Je vois aussi tout le pouvoir, toutes les traces du pouvoir qui sont venues l'écraser. Et en tout cas, pour moi, il y a une espèce de lutte toujours un peu pérenne de comment rendre visible et reconnaître, soit des traces, soit des bouts d'histoire, soit des formes de puissance, des personnes autour de moi. Et par exemple, pour ma mère, je sais que là où j'ai grandi, tu vois, ma mère était quand même une des rares personnes noires là où j'habitais. Elle était femme de ménage, domestique, vraiment subalterne par rapport à plein d'assignations différentes. Mais dès qu'il y avait, par exemple, Myriam Akeba qui venait à la maison, eh ben, tout à coup, elle avait une valeur au regard de la communauté dans laquelle on habitait. Mais surtout parce que, elle était quand même une star internationale. Du coup, elle venait faire des concerts, la radio se pointait chez nous, etc., etc. Et du coup, il y a quelques traces qui existent comme ça. Il y a par exemple un gars qui travaille à la radio, qui a écrit un livre et qui organisait des festivals de jazz et qui a écrit un livre sur sa vie, son œuvre. Et là-dedans, par exemple, ma mère a une existence parce qu'il reconnaît au moins ce lien de... à quoi ça lui a donné accès que cette personne, elle était là. Mais moi, je trouve que dont je me souviens le plus, c'est vraiment aussi comment, même dans ces moments-là, ma mère est restée assignée au truc d'accueillir, de faire à manger. Tu vois, on l'a regardée peut-être avec un autre regard, mais elle était encore une fois super rapidement exploitée, accaparée, etc. Mais par contre, moi, j'ai des souvenirs de tout ce que je considère son plus grand pouvoir, qui est vraiment celui de fabriquer du care, fabriquer du care, fabriquer du care, tu vois, même vis-à-vis de gens qui, au final, étaient dans des logiques plus d'appropriation culturelle. Bref, en tout cas, question pas anodine.
Avoir divisé réaliser nos identités, nos histoires, nos vécus, nécessite que l'on ait si souvent besoin de retricoter sur ce manque. Il y a peut-être qu'en Occident, qu'on est noir.
Je ne suis pas un robot, je ne suis pas un robot.
Prouve que tu n'es pas esclave, que tu n'es pas esclave de ta condition.
Vous écoutez Sur le fil en direct de Radio Galère 88.4.
Première République noire à niquer la colonisation, 1804, Haïti.
En fait, j'ai l'impression que la complexité, c'est aussi comment ne pas nier qu'il n'existe pas juste des traces qui soient joyeuses, glorieuses, puissantes, propres, lisses, tu vois, je ne sais pas comment dire... simple. Pour moi, c'est vraiment, en tout cas, ce que je me souhaite et ce que je nous souhaite, c'est de continuer à arriver à faire un peu cet espace de pari de la complexité et comment toute excavation en général va aussi avec la reconnaissance de plein de violences et puis des perspectives futures quand même qui ne sont pas hyper encourageantes non plus. Mais ça m'intéresse en tout cas la question de comment on reconnaît aussi la violence et la souffrance, par exemple, si je me resitue dans cet ancrage panafricain des générations qui nous ont précédées, avec les premières phases de sortie de colonisation, entre guillemets, hein, mais en termes de gouvernance d'État-nation, quoi. Et ce qui se passe aujourd'hui, moi, j'ai l'impression de voir quand même beaucoup de nos aînés un peu écrasés, comme non, et ils n'y croient plus. Moi, je ne sais pas non plus, moi, comment... comment garder de l'espérance, mais je vois aussi qu'on arrive à le faire à plein de moments et que, voilà, pour moi, en tout cas, l'intérêt à... Qu'est-ce qui fait trace aussi dans le contemporain? Et c'est vraiment cette idée de ce qui n'est pas trop visible, reconnaissable, en tout cas de reconnaître qu'il y a un déploiement de force et de puissance constant qui maintient quand même en vie plein de gens. Et en tout cas, moi, c'est là-dedans que j'essaie de garder un fil avec ce qui j'aimerais avoir comme un lien entre les traces et l'espérance, et qui n'est pas toujours évident, quoi.
Springing in spirit, soul and mind, each day brings more joy. Oh, Lumumba, that's my little boy. I named him after the great man, yeah, who fought for the liberty of the Congo. Patrice Lumumba, ah,
Toujours à l'écoute de Sur le fil sur Radio Galère et on vient d'entendre le morceau Lumumba de Myriam Makeba. Et je voulais juste finir cette chronique avec un dernier mot sous forme d'appel aux militantes et militants marseillais à venir plus nombreux et nombreuses au rassemblement en soutien au peuple oppressé de l'Afrique noire aussi. Je pense au Congo et au Soudan. Samedi dernier, donc hier, au rassemblement de soutien au peuple soudanais face au génocide et à toutes les atrocités qu'elles subissent. Il n'y avait vraiment pas grand monde. La paix pour les Noirs africains est tout aussi nécessaire et valable que celle pour tous les peuples opprimés aujourd'hui. Comme on dit aux États-Unis, les vies noires comptent aussi.
Sur le fil.
Alors on continue cette émission de Sur le fil où on parle de traces avec un extrait du roman Les enfants endormis d'Anthony Passeron. C'est une histoire de l'épidémie du VIH-Sida dans les années 80 en France. C'est un récit familial sur les traces de son oncle qui a tenté de sortir d'un chemin tout tracé, qui a découvert l'héroïne, qui s'est contaminée. Sur les traces aussi de sa famille, pour comprendre le silence à propos de cet oncle, entre le soutien des parents et leur réputation au village.
La moindre absence de Désiré provoquait la panique de ma grand-mère. Terrifié à l'idée qu'il ne replonge. Son fils lui promettait pourtant qu'il ne se droguait plus. Le creux de ses bras cicatrisait. Elle avait plusieurs fois fait le tour de son appartement. Dans aucune pièce, dans aucun placard, elle n'avait trouvé de drogue. Dans un monde où on ne guérissait pas du sida, elle espérait au moins qu'il guérisse de l'héroïne. Le sevrage, c'était pour elle quelque chose de tangible, autrement plus concret qu'un rétrovirus. Elle espérait encore que la maladie finirait par déserter ce corps que la drogue lui avait permis d'envahir. Son fils reprendrait une carrière brillante et s'attacherait enfin à porter haut un patronyme qu'elle s'épuisait à laver des rumeurs du village, du regard navré des pompiers, de la honte et des seringues. Les médecins étaient pourtant formels. Non seulement la maladie progressait, mais Désiré consommait encore de la drogue, de plus en plus même. Mon oncle a fini par avouer qu'il n'avait jamais décroché. Malgré les cures, les tentatives de sevrage, le cannabis, la codéine et tous les médicaments qui lui tombaient sous la main, il n'était pas parvenu à contrecarrer l'autorité de l'héroïne. Il avait simplement trouvé un moyen plus discret de se l'injecter en se piquant dans une veine située dans la langue, sous la langue, là où personne n'aurait l'idée d'aller vérifier. C'est avec cette effrayante découverte que ses parents ont compris que leur combat était définitivement perdu.
Et à présent, un extrait de Opium de Jean Cocteau. Un recueil des textes et des dessins qu'il a réalisé en 1928-1929 pendant un séjour en clinique pour se sevrer de l'opium. C'est une sorte de journal de cure pour garder des traces de cette expérience qu'il appelle désintoxication.
J'ai voulu prendre des notes au fur et à mesure de mon séjour à la clinique et surtout me contredire afin de suivre les étapes du traitement. il importait de parler de l'opium sans gêne, sans littérature et sans aucune connaissance médicale. Les spécialistes paraissent ignorer le monde qui sépare l'opiomane et les autres victimes des toxiques, la drogue et les drogues. Je n'essaye pas de défendre la drogue. J'essaye d'y voir clair, de mettre les pieds dans le plat, d'aborder de face des problèmes qu'on aborde toujours de profil. Je suppose que la jeune école de médecine commence à secouer le joug, à se révolter contre des préjugés ridicules, à suivre le train. Chose étrange. Notre sécurité physique accepte des médecins correspondant aux artistes que notre sécurité morale refuse. Les jeunes découvriront-ils soit une méthode active de désintoxication, soit un régime qui permet de supporter les bienfaits du pavot ? La faculté déteste l'intuition, le risque. Elle veut des praticiens, oubliant qu'elle les a grâce aux découvertes qui se butent d'abord contre le scepticisme. L'art et la science suivent d'autres routes. C'est inexact.
Et maintenant, dans Sur le fil, on va écouter Candy Girl de Trailer Trash Traces.
Thank you. Et la dernière montagne, la dernière que tu vois, la colline, la montagne, là c'est Gibraltar, la dernière que tu vois. 13 km, 13-14 km entre Tanger et.
C'est proche,
c'est 13 km.
Comme tous les matins, la trace de couverture sur le visage, le bruit de la cuillère qui remue le café, les voix murmurées des enfants qui se chamaillent dans la pièce à côté. Comme tous les matins. Les vagues du détroit, la brise dans les mains. Rien n'avait changé.
Je me nomme Joseph Copa Perpetu Solange, je suis de nationalité camerounaise. Je suis partie du Cameroun en 2017, avril 2017. Je suis arrivée ici. Un soir, ils sont arrivés, ils m'ont dit qu'il fallait qu'on parte à Tanger pour traverser la Méditerranée. Nous avons acheté les gilets, moi-même j'avais acheté le gilet ce jour.
Elle cherche des signes de son absence, sous les draps froissés, dans le répertoire de son téléphone, sur le canapé un peu usé. C'est la mère, elle le savait. Même si c'est pas vraiment la faute de la mère.
Mais j'ai fait un rêve où je leur ai dit c'est pas bon, moi je n'y vais pas. Ils se sont entêtés, deux sont décédés et les autres sont rentrés.
Elle aurait préféré que tout s'écroule. Un événement, que tout s'arrête, que le monde se rende compte qu'il se passe quelque chose. Mesdames, messieurs et tous les autres, aujourd'hui la réalité ne peut plus continuer. Mais pas ça. Pas cette répétition des matins. Comme si rien n'avait changé.
Ma sœur, elle était esthéticienne, une fille pleine de rêves. Elle avait un institut de beauté, c'est elle qui me faisait les soins de visage. Et tout le temps, quand j'avais besoin de massage, c'est elle qui était là pour répondre à mes besoins. Et elle était esthéticienne coiffeuse, donc elle me faisait de très jolies coiffures et elle, c'était une fille, elle devait avoir 40 ans aujourd'hui. Elle était en plein vie. Mais son rêve, le Eldorado qu'elle a tant rêvé, aller en Europe.
Des traces du bateau, il n'y en a pas. 6 mois qu'elle nourrit l'espoir d'un bout de bois. Elle a cherché partout. Elle a appelé 25 numéros, elle a couru de bureau en bureau. Sans résultat. des éclats d'ailes. C'est de ça qu'elle a besoin. Elle se lève pour fermer la fenêtre. Elle est fatiguée du vent salé. Elle approche la main de la poignée. Des notes au loin suspendent son geste. C'est la mer. Elle se met à chanter.
C'est un geste d'amour. C'est un geste de solidarité. De prouver aux familles et prouver que vous n'êtes pas seul. Nous sommes là avec vous. Tenez fort, on ne vous lâche pas.
Elle chante pour toutes celles qui sont parties, pour ceux qui ont chaviré, pour celles qui ne sont jamais arrivées. Elle reconnaît le crépitement des algues et les notes tenues des cétacés. Elle entend les larmes des poissons et les harmonies du plancton. C'est doux et chaud.
Ça a vraiment une grande pesée. Oui, ça a une pesée. Et ça nous apaise. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment eu un soulagement que son âme va se reposer. J'ai compris que je n'étais pas aussi seule dans la situation. Il y avait beaucoup de personnes. J'ai compris que je n'étais pas seule. Et ça m'a apaisée aussi. Ça m'a vraiment apaisée.
Quand on a préparé l'émission, j'ai eu envie de parler des dizaines de milliers de personnes qui disparaissent aux frontières maritimes de l'Europe chaque année. Et des milliers de personnes aussi qui continuent à les chercher. Des procédures coûteuses et compliquées, des coups de téléphone à la Croix-Rouge, à la police, aux ambassades, des demandes de visa souvent refusées pour se déplacer, aller voir les corps, les identifier, à l'argent pour les rapatrier. Et puis en discutant avec Solange, j'ai choisi finalement de partager avec vous la tristesse de l'absence et l'importance de se tenir en force, ensemble. La détermination pour ne pas oublier et continuer à lutter pour que ces disparitions cessent. Alors merci, merci à Solange pour avoir partagé ces mots, accompagnés du morceau « Élégie » de Baba Janian, un compositeur arménien qui a écrit ce morceau en hommage à un de ses amis disparus. Merci aussi à la bioacousticienne Lucia Diorio pour les sons des algues, des crevettes, des mérous et des baleines. Et merci surtout à toutes celles et ceux qui prennent soin des morts et des vivants.
Sur le fil.
Tout le monde. Sur le fil, novembre 2025, émission Trace, Et maintenant, chères auditrices et auditeurs et personnes dans les studios, nous allons écouter une expression en son. Il va falloir que vous deviniez à quelle expression j'ai pensé en faisant ce son. Très chers auditeurs, Rhys, n'hésitez pas à mettre en stéréo ou donc si vous avez une radio en mono, vous mettez un casque pour comprendre parce que c'est un son qui s'écoute en stéréo. C'est parti.
Alors, je crois que c'est l'expression qui pousse une brouette qui grince à le pas léger.
Alors, comme on est dans une émission trace, c'est une expression avec trace dedans.
Ah oui, j'aurais pu y penser, c'est vrai. C'est vrai que... Bon, bah, je sais pas.
Mais toi, il faut trouver... Il faut trouver...
L'expression avec le mot trace. Mais c'est vrai que...
Trace ta route.
Moi, j'avais aussi trace ton chemin.
Non.
Et non, c'était suivre à la trace.
Ah, waouh.
Parce qu'il y a une première personne qui marche, une deuxième qui la suit, et une petite brindille qui craque et tout le monde s'arrête de marcher.
Oh. Merci pour cette expression sonore.
Et merci surtout aux 256 personnes qui nous ont envoyé un SMS pour participer au jeu, mais personne n'a trouvé.
Suddenly, I caught sight of the hood of a Martian machine, standing somewhere in Central Park, gleaming in the late afternoon sun. I could see standing in a silent row along the mall, 19 of those great metal titans, their cowls empty, their steel arms hanging listlessly by their sides. I looked in vain for the monsters that inhabit those machines. Suddenly, my eyes were attracted to the immense flock of black birds that hovered directly below me. They circled to the ground. And there before my eyes, stark and silent, lay the Martians with the hungry birds pecking and tearing brown shreds of flesh from their dead bodies. Later, when their bodies were examined in laboratories, it was found that they were killed by the putrefactive and diseased bacteria against which their systems were unprepared. Before the cylinder fell, there was general persuasion that through all the deep of space, no life existed beyond the petty surface of our minute sphere. Now we see further, 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 now we see further.
Témoins oculaires, traces au sol, radar, tout contribue à confirmer son authenticité.
Il doit au moins rester une trace de ce mystérieux passage extraterrestre.
Avec s'il y a trace au sol, faire des prélèvements, mesurer ces traces, photographier les lieux.
Et n'en déplaise aux sceptiques, il se passe bien quelque chose et depuis longtemps. On voit des ovnis au cours des trois derniers mois partout.
Des véritables chasseurs de petits hommes verts. Depuis des années, ils traquent l'ovni.
Toujours en objet volant, nous identifions.
Citerne de couleur aluminium posée à terre. Donc j'ai un décollé. Alors mon premier réflexe, c'était de me sauver.
Alors normalement, il devrait y avoir des traces, des rondes, des fois, où l'herbe a été parfois brûlée. Et il arrive très fréquemment que les feuilles, par exemple, flétrissent, fanent. Alors nous avons avec nous une mallette de prélèvement, des outils, des appareils tels que le dosimètre, pour pouvoir voir des énergies magnétiques, des ondes magnétiques, qui justement se modifient lorsque certains ovnis passent. On en a trouvé à peu près une trentaine d'espèces, mais je pense qu'il y en a plus que ça. Et ça va des grands blonds jusqu'aux petits gris, dont parle Jimmy Gu, mais il y a de toutes sortes, plus ou moins grands, plus ou moins petits, de couleurs différentes parfois.
Le homme, le
fameux OM, qui est un son cosmique universel et qui génère des états vibratoires particuliers au niveau du cerveau et qui permet d'améliorer les connexions télépathiques.
Et on peut rentrer peut-être en contact avec des plans de conscience supérieure.
On se parle par psychologiquement et je dirais aussi physiologiquement à cette rencontre.
La réalité et l'illusion, il n'est pas question pour nous de trancher. Il ne s'agit pas de démontrer l'existence des soucoupes volantes ou la présence d'êtres extraterrestres dans notre espace céleste. Mais nous voulons tout simplement vous montrer des hommes qui s'intéressent à ce phénomène. Par leur passion et leur travail, ils étudient le phénomène OVNI.
Depuis, donc, vous n'en aviez parlé à personne.
Je n'en avais jamais parlé à personne. Contresignait ça la gendarmerie, mais on était pris plus ou moins pour des fous. Hein.
Se rendre sur les lieux, repérer exactement l'endroit exact du phénomène, essayer de mesurer un peu ce phénomène vis-à-vis d'après notamment les déclarations du témoin, à la suite de quoi, grâce avec une capta-major, situer le lieu précis de l'observation, avec une boussole s'orienter exactement, mais essayer déjà de faire des relevés, puisque là c'est un atterrissage, faire des relevés au niveau du sol, par exemple avec un compteur GGR, s'il y a trace au sol, faire des prélèvements également, mesurer ces traces, photographier les lieux, c'est un travail très complexe et très long.
Le GEOS, groupe d'études des objets spatiaux. Après l'enquête sur le terrain, le témoin doit tenter de faire un portrait robot de l'objet volant qu'il a observé, et puis il remplit un questionnaire très complet.
La légende est vivace. La légende est vivace.
Les gorges sont infestées de mauvaises femmes. C'est cruel, mais elles aiment ça. Il faut s'arrêter au bon endroit pour discerner de la route les restes de sa demeure. Ce qui est sûr, c'est qu'on la croise encore de temps en temps. Entre spectres féminins, la concurrence est rude.
Mais le mystère n'est pas totalement éclairci. De mystérieux cercles apparaissent chaque été dans les champs de blé. Messages d'extraterrestres ou phénomènes naturels. Messages d'extraterrestres ou phénomènes naturels. Deux alertes à Genève qui seraient les auteurs du canular. Deux alertes à Genève qui seraient les auteurs du canular.
Que dire de ces curieuses figures géométriques que seul l'avion nous a permis de découvrir il y a peu de temps? Ils se sont lancés sur la trace des animaux fabuleux.
Là, ce sont des traces de griffes dans l'écorce d'un arbre. Et ici, nous avons des empreintes odeurs de pâques. Là, ce sont des traces de griffes dans l'écorce d'un arbre. Et ici, nous avons des empreintes de pâques.
Traces d'urine, excréments, touffes de poils et carcasses.
Les traces permettent d'identifier l'animal, de connaître son âge, son mode de vie.
Ici, les traces de la bête, hein. On la voit, on lui tire des coups de fusil dans les reins, elle tombe en hurlant, elle se relève, s'échappe. On la poursuit jusqu'à la nuit. Alors, elle semble se volatiliser plus de trace.
Certains objets usuels aux formes insolites sont encore quotidiennement retrouvés intacts après une cinquantaine de siècles d'oubli.
Sur le fil, on vient d'écouter une noise sur le thème des traces, bien sûr. Traces de quoi? Traces d'extraterrestres, traces de bêtes légendaires, la Dame Blanche, la bête du Gévaudan, etc., etc. On a écouté dans cette noise Traces One de Tigran Amasyan et compagnie. On a écouté aussi Kin de Traces of Men. On a écouté, bien sûr, vous l'aurez reconnu, Mark Snow avec le générique de X-Files, Materia Primoris. Ensuite, il y avait aussi Alone, Traces of Ghosts Remix de Blood Fantasy. Et aussi DJ Trace, bien sûr, avec Don Badman. Et au tout début, c'était le fameux Orson Welles avec La Guerre des Mondes. C'est un enregistrement qui date de 1938, un canular sur les extraterrestres qui a mis les gens complètement en panique à l'époque aux États-Unis. Voilà, vous êtes toujours dans Sur le fil et on continue l'émission. On trace, on déborde ce soir, on déborde du fil.
Et la romancière Ursula Le Guin a inventé la théorolinguistique, cette discipline imaginaire qui étudie ce langage des animaux. Suite à cela, Vinciane Després, dans Autobiographie d'un poulpe et autres récits d'anticipation, imagine les débats dans le monde scientifique dans ce domaine.
Archive numéro 324, fonds de l'association Sciences cosmophoniques et paralinguistiques. Extrait du procès-verbal de la réunion de création d'une nouvelle association distincte et indépendante de l'association de théorolinguistique. Les membres du comité scientifique ont d'abord unanimement tenu à saluer les immenses progrès accomplis jusqu'à ce jour par l'association des théorolinguistes. On se souviendra particulièrement de ceux qui ont été permis par la découverte de fragments de messages de fourmis trouvés sous la forme de traces d'exudation de glandes sur des graines d'acacia soigneusement arrangées. Faire le pari qu'il s'agissait d'un message explicite et délibéré laissé par une fourmi anonyme était risqué, mais cela s'avéra gagnant. Certes, l'analyse des fragments et surtout leur traduction suscitèrent de nombreuses controverses chez les théorolinguistes. Les fourmis ne connaissant pas l'usage de la première ni de la seconde personne dans la formulation des verbes, il était difficile de traduire précisément des énoncés comme « manger les œufs ». Comme il était tout aussi compliqué de comprendre le cri « en haut la reine » dans un monde où le haut représente justement le danger et ce qui doit être évité. Ne fallait-il pas plutôt l'envisager de manière non ethnocentrique, comme l'expression d'une révolte « à bas la reine » ? L'idée inimaginable jusqu'alors d'une possible poésie pamphlétaire chez les fourmis constitua un pas décisif et ouvrit le champ de la théorolittérature à quantité de formes expressives jusque-là négligées. De même, nous pouvons féliciter nos collègues pour la brillante étude de l'écriture kinétique chorale chez les manchots d'Adélie. Nous ne ferons pas le compte de tous les succès, dont le plus beau aura sans conteste été de reconnaître aux araignées, réparant ainsi une injustice de longue date, la réelle maternité de la méthode des sciences historiques par excellence, l'invention de l'archive. Car les araignées ont bien été à l'origine de cette magnifique invention. Ce fut une découverte majeure dans et pour l'histoire. Les araignées ont été les premières à avoir mis au point une technologie de conservation des événements, puisque les toiles, avant même d'être pièges, affaires d'architecture ou de territoire, sont la mémoire matérielle et externalisée de conduite, de technique et de style. Des cartographies soyeuses de mémoire, sans cesse en évolution. On ne peut mieux qualifier l'archive et créditer enfin les araignées de l'origine de cette précieuse science. Et grâce à cette reconnaissance, ces toiles ont enfin pu figurer sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.
Alors on s'approche de la fin de cette émission Trace et on va terminer nos lectures par un extrait de La Catastrophe Invisible, un ouvrage collectif qui retrace une histoire sociale de l'héroïne depuis les années 60 en France. Voilà, plus précisément, on va vous lire un extrait du chapitre Histoire raciale de l'héroïne de Fabrice Olivet, militant à Assud et historien sur l'histoire des relations entre race et héroïne entre 1980 et 1995.
Tout commence par un slogan. The War on Drugs. La guerre à la drogue. Un avatar politico-judiciaire soutenu par Richard Nixon devant le Congrès des États-Unis en 1969. L'année suivante est projetée en France la version doublée, mieux connue sous le titre de « lutte contre la toxicomanie », entre guillemets. Comme son modèle, elle a connu son apogée dans les années 80. Comme son modèle, elle est à l'origine focalisée sur un produit emblématique, l'héroïne, et sur un instrument de consommation particulièrement transgressif, la seringue. Comme son modèle, elle a fait de la race un terrain d'action privilégié. De la fin des années 1970 à l'aube du XXIe siècle, une guerre méthodique, implacable, exterminatrice a été menée contre une partie de la jeunesse française, issue de l'immigration africaine, au nom de la lutte contre l'héroïne. Les Africains-Américains et le néo-esclavagisme, là-bas, les Arabes et le post-colonialisme, ici. Plus que d'autres, les Français issus de l'immigration, les Arabes et les Noirs ont souffert du silence qui a entouré l'épidémie de sida parmi les toxicos dans les années 80-90. peur de stigmatiser une communauté, culpabilité des usagers, des parents et des proches, la place acquise par le trafic dans les réseaux familiaux, autant de raisons d'étouffer le scandale de l'épidémie du sida en banlieue. C'est une histoire compliquée, à la fois médiatisée et tue. Dans les années 80, toute une génération de jeunes adultes est frappée par la mortalité et les dommages liés à une consommation de masse d'héroïne, principalement injectée. Parmi eux, les filles et les fils de l'immigration africaine ne sont pas épargnés, bien au contraire. Parallèlement, la sociabilité des grands ensembles se modifie pendant cette période où la présence de l'État ne se fait sentir que par une aggravation de la répression policière. Mort du sida, incarcération, cambriolage, overdose et règlement de compte entre dealers font leur apparition dans une société que l'on décrivait comme, entre guillemets, un espace communautaire où il faisait bon vivre. Dans les années 70, au temps d'avant la catastrophe. Pour les contemporains, ceux qui ont traversé l'histoire de l'héroïne et de la guerre qui lui a été livrée dans les quartiers, le souvenir est à la fois vif et tabou. Ils ont vécu la tempête et restent encombrés par ces souvenirs traumatisants. Je dirais 80-90% de la génération. Rares sont les familles du secteur qui n'ont pas au moins un membre de leur famille qui a disparu. Quiconque pose la question de l'héroïne dans les cités entend cette rengaine qui, paradoxalement, passe toujours pour un scoop journalistique. L'héroïne, la banlieue, le sida, trois items qui fusionnent dans un ensemble méconnu du grand public, puis évacués de l'histoire de la lutte contre l'épidémie. Un ensemble qui constitue donc un objet de recherche singulier, tout en participant d'une forme de topos, né précisément dans ces années-là, en associant presque naturellement les rebeux, les cités et la drogue. Cette caricature a une histoire qui plonge ses racines dans les années 1980. Une histoire également traversée par le déni de la part des populations traumatisées, le mot n'est pas trop fort, réticente à l'idée d'accrocher une casserole supplémentaire à la mémoire des enfants de l'immigration africaine. Force est de constater que le tabou qui pèse sur le mot race est lourdement amplifié par les résonances négatives du mot drogue auprès des populations noires et arabes. Il n'est pas exagéré de penser que l'histoire de l'héroïne a considérablement aggravé cette négativité depuis les années 80. Dès qu'il est question de la drogue, la plupart des personnalités qui seraient qualifiées outre-Atlantique de « leaders communautaires » se drapent dans la surenchère répressive, à l'image de la sénatrice de Marseille, Samia Ghali, qui réclame une occupation militaire des zones de deal pour mener une sorte de bataille d'Alger anti-drogue. Même les rares voix qui se réclament explicitement d'une communauté racisée semblent brusquement inhibées devant la perspective d'une dénonciation raciale de la lutte menée contre les stupéfiants. La guerre menée contre la génération sacrifiée, pour reprendre les mots de Reda Sadki, s'engouffre dans tous les interstices que le racisme ordinaire avait l'habitude d'emprunter. Pour revisiter ces années où régnait la blanche, il faut corriger les défauts de perspective dus à la courbure du temps. Ce qui contribue à nous dissimuler les points focaux reliant cette substance tellement décriée avec ce qu'il est convenu d'appeler les banlieues.
Sur le fil.
On est toujours dans Sur le fil en direct sur Radio Galère, la meilleure des radios. Et maintenant, on va se quitter bientôt avec une chanson de Betty Swan de 1969 qui est une reprise du groupe de Easy Listening, Classics 4. Mais Betty Swan, elle en fait un morceau de soul et c'est vraiment plus intéressant. Bonne écoute.
Just a faded photograph, all covered now with lines and creases, tickets torn in half,
memories in bits and pieces.
Cette émission se termine.
Merci beaucoup à la technique.
Oui.
Oh, on a des traces d'amour pour vous, tout comme le disait Betty Swan à l'instant. Et figurez-vous qu'on sait déjà le thème de la prochaine émission de Sur le fil de décembre. Ce sera le double. Ou la double.
Double.
Eh bien, on se retrouve le mois prochain.
À bientôt.
Salut.
À bientôt.